Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel, c'est tous les matins à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible entre autres sur franceculture.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 septembre. Le 11 septembre, ça nous renvoie encore aux attentats du World Trade Center à New York en 2001 et pour les plus âgés d'entre nous, au coup d'État contre le président Allende fomenté par Pinochet. Dans les deux cas, il s'agissait de la fin d'un monde, la fin d'un rêve, et il y a un peu d'écho de ces violences politiques dans la bande dessinée dont il va être question aujourd'hui. 14 juillet, édité par Casterman, c'est une histoire qui se passe dans la France traumatisée par les attentats de Charlie, et je reçois le scénariste Martin Kenéen et le dessinateur Bastien Vivès, aujourd'hui dans le Réveil culturel.
Le Réveil culturel, vendredi. Bande dessinée.
Bonjour Bastien Vivès, bonjour Martin Kenéen.
Bonjour.
Les
bonjour.
Deux auteurs de 14 juillet, oui, sur le site de la bande dessinée, sont donc avec nous dans le Réveil culturel. Alors c'est le fait d'avoir un enfant, d'avoir dépassé le cap de la trentaine, Bastien Vivès, qui vous rend plus sensible au sujet d'actualité?
Non, pas forcément, parce que j'ai commencé la BD, je faisais le premier découpage alors que ma femme accouchait. Donc voilà. Enfin, j'étais à côté d'elle et on attendait avec les contractions et puis moi j'avais les feuilles et puis je faisais le découpage. Donc on avait déjà l'idée avant, ça en était déjà parlé avant. Donc c'est pas forcément la paternité qui m'a dit tout d'un coup "Ah, il faut que je m'intéresse au monde
Le
monde d'aujourd'hui qui m'entoure.
Et surtout, le monde traumatisant d'aujourd'hui, parce que tous les personnages de cette bande dessinée, ça va être très dur d'ailleurs de résumer l'histoire, parce que c'est un thriller, et qu'on n'a pas envie de dévoiler justement l'intrigue, mais ça se passe quelque part en France, une France, disons, rurale, ça se passe en Isère, ça tourne autour d'un gendarme et de quelques personnes venues ici pour oublier un traumatisme lié aux attentats.
Bah c'est l'exode quoi, c'est Martin qui est venu avec cette idée.
Martin Kenéen
qui est venu avec cette idée.
Faut-il le présenter sur les ondes de France Culture, lui
on le connaît, tout le monde le connaît.
Lui qui a été longtemps mon collègue et qui a décidé d'aborder une nouvelle vie, une vie de scénariste. Martin Kenéen, d'où est partie cette idée?
Il y a une conjonction de phénomènes, il y a à la fois la France post-attentat, même si on est toujours dans cette inquiétude là aujourd'hui, et c'est sans doute pour ça aussi que ça nous a accompagné Bastien et moi, c'est l'année 2015 avec les attentats de l'année 2015 évidemment qui je pense nous a tous marqué chacun à sa manière. Il y avait aussi la montée de l'extrême droite avec les élections de 2017 qui était très présente, et donc une question diffuse qui était de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation là la tentation de l'exil ou de l'exode, ça renvoyait en effet, comme le disait Bastien à l'instant, à peut-être ça a résonné en moi, en tout cas avec des choses que j'avais lues à propos de l'exode en 40, où un certain nombre de Françaises et de Français avaient pris la route en espérant trouver un lieu sûr. Et là, il s'agit évidemment d'un tout autre contexte, d'une toute autre époque, mais il y a cette tentation-là pour nos deux Parisiens, qui sont Vincent, artiste peintre, et sa fille Lisa, adolescente, qui décident de partir vers un lieu un peu fantasmé, une France un peu fantasmée, où ils seraient à l'abri du traumatisme, du choc qu'ils ont vécu de plein fouet, puisque la femme de Vincent est morte dans un attentat, comme on l'apprend assez tôt dans le récit. Donc c'était de partir de ce choc-là et de savoir comment est-ce qu'on pouvait réagir. Et quand je suis allé voir Bastien avec cette idée-là, où il rencontrait un gendarme, Bastien tout de suite s'est emparé du gendarme.
Et le gendarme, qui s'appelle Jimmy, lui-même sort d'un traumatisme, puisque quand la bande dessinée souffre, elle souffre sur son deuil, sur l'impossible deuil de Jimmy qui vient vraiment très en retard enterrer son père.
Ouais, je pense qu'elle est très compliquée cette époque pour les gens qui ont envie d'être utiles et de sauver d'autres gens, quoi. Enfin, comment tous les flics et les gendarmes, quand on les entend, quand ils parlent des attentats, ils peuvent arriver à en empêcher, mais c'est très compliqué là avec le mode opératoire qu'ils ont. Enfin, cette idée de flagrant délit, de pouvoir les arrêter à ce moment-là, elle y arrive pas. Et Jimmy, on commence avec, il se dit, mon père, il était à 5 minutes, j'aurais pu le porter, j'aurais pu l'amener à l'hôpital. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dit, les mecs.
Même s'il n'est pas du tout victime de terrorisme, le père du
Jimmy. Non, du tout. Non. Il meurt comme ça. Mais c'est toujours cette idée. Moi, j'ai toujours été impressionné, marqué par. Il y a des gens qui ont envie de sauver d'autres gens, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie de faire ça. Et comment agir, c'est absolument impossible, quoi. Tant que l'attentat s'est pas produit, on peut sauver personne d'un attentat, quoi, d'une certaine manière. Et ouais. C'est là où c'est la BD ne parle que de ça, quoi.
Voilà. Et c'est, vous décrivez très bien ce personnage de la bande dessinée 14 juillet. Alors 14 juillet, c'est parce qu'il va se passer quelque chose pendant la fête nationale. On imagine que ça va être un attentat. Bien Est-ce sûr. Que ce Jimmy, ce jeune gendarme, va réussir à détourner l'attentat? Eh ben, c'est pas ça la question de la bande dessinée. La vraie question, c'est que cet homme, ce jeune homme, est obsédé par l'envie de détourner un attentat, d'être utile.
Ouais, il y a des choses qui nous ont, si je repense, janvier 2015 à Charlie Hebdo, c'est peut-être à ce moment-là, peut-être que j'ai commencé à ouvrir les yeux en me disant, je crois que j'ai besoin de comprendre un peu dans le monde dans lequel on vit. Ça a été très dur parce que pour la première fois on tue des dessinateurs, donc ça me touchait d'une certaine manière. Et puis je me disais, merde, il y a un petit changement là qui est en train de se passer et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et l'autre fait qui aussi beaucoup m'a beaucoup marqué, c'est gendarme Beltrame qui va donner sa vie pour sauver un otage. Et je me demande à quel point, est-ce que son geste, s'il n'y a pas les attentats de Charlie avant, est-ce qu'il le fait ou pas, quoi? Est-ce que cette volonté d'essayer d'être, de sauver la France, de sauver quelque chose, est-ce que c'est cette volonté même de se croire, d'être un héros? Je pense qu'il y a des questionnements aujourd'hui, quoi. Les gens, est-ce qu'il y a un endroit entre vous n'aurez pas ma haine et il faut se venger, il faut tous les tuer, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut être au milieu? Je sais pas. C'est un peu ça les motivations du bouquin.
Comment vous avez travaillé ensemble, Martin Kenelen et Bastien Vives?
C'est un mélange de séances de travail à la Marcel Pagnol, à la Terrasse des Cafés. Et puis, c'est un mélange de travail à la Matrix, je dirais, où on échangeait des informations par Dropbox interposée, donc messagerie instantanée ouais. Internet d'aujourd'hui. On peut échanger des gros fichiers comme des belles planches dessinées à la tablette graphique par Bastien. Donc voilà, on est à l'intersection de Pagnol et...
C'est votre premier scénario, Martin Kenelen.
Ouais.
Alors, comment on écrit un scénario de bande dessinée? Est-ce que Bastien Vives était aussi là pour vous guider sur comment écrire une bande dessinée?
Il était surtout là pour tout déconstruire, tout foutre par terre, tout recommencer.
Donc, pour vous aider, quoi.
J'ai foutu un gros bordel. Ouais. Mais après, ça m'est retombé quand même sur les mains parce que ça m'est retombé dessus parce que j'ai jeté une centaine de pages sur ce bouquin parce que...
Il avait écrit un roman, c'est ça, ce que vous voulez dire, plutôt qu'un scénario
de bande
dessinée?
Il n'a pas forcément écrit un roman, c'est que lui avait un certain axe et au fur et à mesure, on s'est un peu mis d'accord tacitement tous les deux, j'ai l'impression, sur le fait que cette BD allait évoluer parce que au fil du temps, même l'actualité, même notre réflexion, se précisait de plus en plus. On a commencé la BD, je pense pas qu'on avait la même, en fait, une fois la BD terminée, on a continué de travailler pendant plus de 6 mois encore dessus, quoi. Et on a jeté des planches, on a refait des planches, on s'est redit, parce que tout d'un coup, on allait, un peu comme une thèse ou n'importe quoi, on fouille, et puis on se dit, non, ça, en fait, on est peut-être passé à côté de ça. Est-ce que c'est à nous de donner une réponse? Est-ce que c'est au lecteur de trouver ce qu'il y a à trouver? Bref, en gros, on a fouillé. Ce qui est très intéressant, je pense, mais en termes de méthode de travail, c'est impossible, quoi. Pour un dessinateur, c'est impossible.
Un trauma pour Bastien.
Parce qu'en
aussi.
Tout, j'ai dessiné 400 pages, c'est pas possible.
Qui a eu l'idée de représenter Michel Houellebecq et d'utiliser le physique de Michel Houellebecq?
Alors, c'est pas une caricature Astérix, faut pas déconner non plus.
C'est Michel Houellebecq. Tout le monde reconnaîtra Michel Houellebecq.
J'ai gardé un peu parce que je trouvais que c'était. Il incarnait physiquement quelque chose qui pour moi était important. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Je trouve qu'il est incroyable dans les films dans lesquels il joue.
C'est un écrivain et... que vous aimez en tant qu'acteur et que vous transformez en peintre dans votre bande dessinée.
Exactement. Voilà. Non, et je trouve que c'est il a un vrai rôle d'artiste aujourd'hui et très intéressant. Et pas, c'est pas juste un polémiste ou je sais pas quoi, n'importe quoi. C'est vraiment, il a vraiment un rôle d'artiste et je trouvais ça important de l'avoir en tant que Vincent parce qu'il y a notre personnage passe par plusieurs phases et dont une où il est complètement dépressif et il ressemble à un enfant qui a perdu sa maman et qui triste comme les blés, et puis tout d'un coup il a une espèce de regain en disant non mais en fait le deuil je vais le faire, il n'y a pas de problème, je suis à la campagne, tout va bien, et il y a ces montagnes russes qui je trouve correspondent bien à l'idée que je me fais romantique d'un Michel Houellebecq, alors que je sais que je le connais pas personnellement, donc je j'imagine pas, mais je trouve que physiquement il y a quelque chose.
C'est ce qui est assez fascinant aussi, ouais, quand on arrive comme moi dans la peau du scénariste auprès d'un dessinateur comme Bastien, c'est que tout de suite il va s'imaginer les personnages et lui il va leur donner des gueules. Tout de suite lui voit des visages alors que moi peut-être je vois des caractères, des corps, des situations. Tout de suite avec Bastien, ça a été les tout débuts de notre conversation, ça a été aussi il a pris plaisir, je crois, tu t'es emparé, Bastien, des personnages, et il a commencé à faire des croquis, à faire des essais, c'est presque comme ça qu'il a commencé à dessiner 14 juillet, et donc le Michel Houellebecq, c'était une idée de départ, je crois que c'était une intuition, c'était une impulsion, et il a très vite évolué, et donc dans les premières planches, il a un peu quelque chose de Michel Houellebecq, et rapidement, il prend son autonomie, et même il mute physiquement, mais...
Et puis c'est quand même, enfin, au niveau du physique, c'est l'extrême inverse de notre gendarme qui est bodybuildé, presque, c'est bah presque un Américain, quoi.
Mais c'est ça qui est audacieux et complètement réussi dans cette bande dessinée. C'est d'une part, vous intégrez Michel Houellebecq dans la peau d'un personnage de fiction, mais on le reconnaît. Et le gendarme, effectivement, nous fait rappeler, le tram. C'est-à-dire comme si les deux personnages clés de cette période, c'est-à-dire l'intellectuel qui s'est exposé, qui a écrit plusieurs écrits autour de ces attentats, de cette époque, de cette France d'aujourd'hui avait leur place dans cette chronique.
Puis même, il y a un truc, moi je suis beaucoup les intuitions parce que il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans le bouquin et c'est peut-être dans un an, deux ans, trois ans où je me rendrai compte, ah bah tiens, j'avais mis ça à ce moment-là, où on avait mis ça, on avait écrit ça, donc il faut vraiment suivre les intuitions. Et tout d'un coup, Michel Houellebecq, juste ce physique de départ pour travailler, ça me plaisait. Et puis même quand on pense que Soumission est sorti le jour des attentats chez Charlie et tout ça, donc c'était, il incarne cette époque, donc c'était important de, même pour moi, de le mettre dedans, mais même si il a pas un t-shirt marqué Michel Houellebecq, quoi.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Avec Bastien Viveste et Martin Kuhnen pour leur bande dessinée, éditée chez Casterman, 14 juillet. Donc, on en a parlé en début d'émission, c'est une bande dessinée qui parle de la France d'aujourd'hui. Une France marquée, traumatisée par les attentats terroristes. S'il fallait parler maintenant des personnages ou l'art de ne surtout pas raconter l'histoire, parce qu'on peut pas raconter justement cette histoire, comment on travaille sur un personnage comme celui de Jimmy, le jeune gendarme ? Martin Kuhnen, vous qui êtes le scénariste.
On arrive tout de suite avec un personnage ambigu, trouble, qui a l'air d'être méchant au départ, parce qu'il a tous les oripeaux du méchant, c'est-à-dire qu'il y a cette famille endeuillée, ce père Vincent, sa fille Lisa, qui sont un peu les victimes, et il tombe sur un mec tout de suite en uniforme, qui est caché derrière ses lunettes noires, qui ont quelque chose d'assez menaçant, qui plus est aujourd'hui, où l'actualité nous a rattrapés, où le discours sur la police et les forces de l'ordre, donc les gendarmes également, a changé, est beaucoup plus accusateur. Et ce qui nous a plu tout de suite, c'est de lui donner toute cette ambiguïté. C'est-à-dire que il peut avoir l'air menaçant, et en réalité, on sait d'emblée aussi qu'il est fragile, qu'il est affecté, qu'il est sensible sous son armure. Et donc, je crois qu'on a joué avec Bastien à mettre au cœur du récit ce personnage. Ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que l'actualité nous a rattrapés aussi en mettant sur le devant de la scène médiatique et donc des préoccupations des Françaises et des Français, un certain nombre de Françaises et de Français qui ne vivent pas à Paris, qui ne font pas partie des plus riches ou des plus influents, comme ce gendarme qui est personne d'une certaine manière. Et il est personne comme Ulysse aussi et personne dans l'Odyssée. C'est-à-dire que il va aussi d'épreuve d'obstacle en obstacle, il court après cette menace d'attentat qu'il entend déjouer, peut-être d'une façon un peu too much, peut-être parano, on ne sait pas.
Peut-être par ambition, parce qu'on voit que c'est aussi un jeune homme très ambitieux. Il a envie de réussir, il a envie de gravir les échelons.
Je sais pas s'il a forcément envie il a surtout envie de fuir, c'est ça vraiment le truc. Il est pris en étau entre deux nanas,
Qu'il fuit d'une manière.
Qu'il fuit complètement.
D'une manière très ambiguë, là, d'ailleurs, vous restez très.
Bien sûr. Mais en fait, et ça, c'est quand même un peu le modus, c'est ce qui motive souvent le passage à l'acte, que ce soit terroriste ou autre. C'est toujours ce rapport qu'il y a avec la fuite, quoi, avec l'idée de, je sais pas, Beltrame, il devait se marier 15 jours après. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses qui, en gros, c'est toujours, c'est Martin qui le dit normalement à chaque fois, là,
de la citation de Lacan, qui dit que les mecs préfèrent partir à la guerre pour échapper à leur bonne femme. Mais ce qui est marrant, c'est que justement, c'est assez jouissif d'avoir fait cette BD à deux avec Bastien Vives. C'est donc on a travaillé à deux cerveaux et donc avec des représentations parfois opposées. Bastien, toi, tu parles à l'instant du fait que tu as vu que notre personnage était dans une forme de fuite, ce Jimmy, ce jeune gendarme, qui cherche à tout craint à arrêter un attentat. Et moi, au contraire, au départ, je l'ai conçu comme un mec très enraciné avec l'idée de la France, des enracinés, tout ce délire-là politique qui a existé et qui existe encore, avec un personnage qui est dans un territoire, qui est ce territoire de montagne magnifique, où il veut sauver le territoire. Il est sensible à la beauté des paysages, et c'est pour ça qu'il va se rapprocher aussi de ce peintre.
Et il est tout à la fois coupable des pires incitations racistes de cette bande dessinée, et capable du meilleur. Il est très
très bon. Il dit pas de choses racistes, attention.
C'est ses collègues.
Il est entouré de collègues. Lui,
moi j'aime bien l'idée qu'on arrive à, moi j'ai passé mon temps à vendre des bouquins où il y avait des nanas à moitié à poil sur 120 pages, là tu dis bah voilà, vous allez vous taper un gendarme sur 250 pages, bah, il faut le vouloir quand même. Et tout l'enjeu de la bande dessinée, c'est d'arriver à faire entrer les gens dans cette histoire et qu'ils commencent à comprendre que la vérité va pas forcément être éclairée à gros coups de projecteur, et il va falloir faire un avis là-dessus, si est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les agissements de ce gendarme ou avec les agissements du peintre, et puis se poser des questions et se positionner par rapport à ça. Et ça,
ouais, nous on avait une envie de fiction, c'est-à-dire que on n'avait pas envie de donner des réponses, d'apporter un petit manuel pour comprendre la situation et pour savoir comment réagir en cas de menace
ou de distribuer des bons et des mauvais points.
Exactement.
Voilà, on avait envie de faire un thriller, de faire un polar. Ouais. Moi, ce qui m'est venu sur le tard, c'est que plutôt que Michel Houellebecq et Beltrame, c'était Madame Bovary, notre gendarme en fait. C'était Madame Bovary avec un flingue. Et donc il y avait quelque chose, je crois. Il y a quelque chose d'ailleurs dans l'approche en général de Bastien, mais qui pour moi se retrouve à sa façon dans 14 juillet, qui est cette forme de naturalisme, au sens où on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans le romantisme échevelé non plus, on est dans quelque chose de très près de l'extrême sensibilité à la vie quotidienne, aux petites choses de la vie. Claude Sautet est pas loin non plus, et donc voilà, il y avait ce plaisir là aussi de raconter une histoire où c'est aussi peut-être une histoire de femme, ce Jimmy.
Martin Cunningham vient de parler de l'ultime référence cinématographique de Bastien Vivès.
Ouais, faut pas me lancer là-dessus.
Non, mais est-ce que le découpage, pour vous le concevez comme un découpage pour un film?
Le découpage qu'on a l'habitude de voir autour des films, les storyboards, c'est souvent assez décevant parce que c'est très efficace, mais c'est qu'un ersatz de cinéma. Quand on connaît la séquence qui est représentée en storyboard, c'est pas le même goût parce qu'il y a pas la vie qu'il y a dans l'image.
C'est un mode d'emploi pour le cinéma.
Voilà, c'est une sorte de mode d'emploi. Alors que ce que j'adore chez Bastien, et c'est pas pour rien que
Bastien Vivès, même quand il est sous influence de Sautet.
Voilà, non, c'est que les planches, et par exemple dans 14 juillet, dans cette bande dessinée, c'est plus que de la représentation des actions, des scènes, même les scènes, on parle des scènes muettes, les scènes de course-poursuite dans la cité, les scènes dans les paysages grandioses. C'est à la fois rendre hommage à tous ces paysages de la France d'aujourd'hui, parce que c'est aussi en filigrane le projet de la bande dessinée, de parler de la France d'aujourd'hui, donc la France des cités, la France des campagnes, etc. Et puis ça va même jusqu'à l'abstraction. C'est ça que je trouve assez extraordinaire dans l'art de Bastien de mettre en page. Je vais me mettre à pleurer. C'est trop beau. Mais il y a vraiment ce plaisir-là, pour moi, juste de lecteur, de découvrir comment il choisit de représenter une scène. C'est pas uniquement de la pure efficacité, c'est de l'efficacité et de la beauté graphique.
La beauté des paysages, le lieu, ça venait pas de vous, scénariste Martin Cunningham.
C'est entièrement de ma faute. Le territoire, les paysages, les propositions, je l'ai abreuvé d'images.
Les photos, images,
voilà. Mais après, ce qu'il en a fait, comment il a choisi de déconstruire, il y a une séquence qui se passe, on peut le dire, dans la cité dite de l'Arlequin, entre Échirolles et Grenoble, qui est une de ces utopies des années 70, qui est devenue une sorte de dystopie aujourd'hui, à cause des trafics, de la déshérence sociale. Et ben ces façades-là, voilà, il en fait du Mondrian. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de ça dans l'art de la représentation.
Non, mais c'est vrai, ce truc de ce côté labyrinthe, quoi. Moi, j'aime bien que c'est un personnage qui va rentrer. Il habite juste à côté d'une cité dans son village, le gendarme, et puis il va rentrer dans cette cité. Et une fois qu'il a réussi à rentrer dans le hall pour sortir, c'est des trappes, des portes, et qu'il arrive dans un bâtiment et il dit bah ils se ressemblent tous, ces putains de bâtiments, il y a trois fois le même bâtiment, et donc comment est-ce que tu veux arriver à savoir où est-ce que t'as garé ta bagnole, quoi. Donc c'est ça qui me plaisait, et en plus là, toute la scène se passe de nuit. Et c'est là où c'était très intéressant à découper. Là.
Et puis c'était l'enjeu narratif aussi, d'envoyer des Français à la rencontre d'autres Français qui se connaissent pas, qui aujourd'hui s'ignorent, et donc d'envoyer ce gendarme dans un endroit qu'il connaît pas, faire des choses qu'il connaît pas, et est-ce qu'il va s'en sortir?
Et puis enfin, pour terminer cette émission, la dernière fois que vous étiez ensemble, Bastien Vivès, ou que je vous ai vu ensemble, Bastien Vivès et Martin Kenéen, c'était autour d'un projet autour de Jeanne d'Arc. Ouais. On se souvient de cette grande traversée d'été qu'avait fait Martin Kenéen pour France Culture autour de Jeanne d'Arc. Comment dérive de Jeanne d'Arc à la France d'aujourd'hui, marquée par les terroristes?
Le Front National, c'est ce qui est tout ça. Non, bien sûr que non. Comment est-ce qu'on arrive de Jeanne d'Arc?
C'était votre projet au début, hein?
En fait, c'était juste que Martin était venu m'interviewer pour... il cherchait un dessinateur pour représenter Jeanne d'Arc aujourd'hui. C'était ça à peu près.
Oui, interroger Bastien sur sa façon de voir un personnage comme Jeanne d'Arc, lui qui est habitué à représenter des femmes fortes, parfois des femmes en armure.
Exactement. Et puis surtout aujourd'hui, s'il y a bien un truc, même dans la bande dessinée, on est confronté au cinéma, on passe que ça, c'est que cette espèce de féminisme héroïque qui est sorti à la soupe, qui est en menu maxi best-of de tout ce que vous voulez, là on nous sort tout, là ils refont toute l'histoire et tout, il y a pas de problème. Et là c'était l'idée de est-ce que Jeanne d'Arc ça va encore dire quelque chose aujourd'hui, quoi. C'est l'impression que Jeanne d'Arc avant c'était, on dit c'était la femme forte qui a libéré de machin ça, mais aujourd'hui t'as raison qu'il y a des Jeanne d'Arc partout, j'en sais rien.
Mais
donc
Jimmy
en fait,
est une sorte de Jeanne d'Arc.
Jimmy est une sorte de Jeanne d'Arc.
Mais vous avez bien un projet d'adapter Jeanne d'Arc en bande dessinée ou pas?
Non, du tout.
C'était une manière de perdre le journaliste qui essayait de vous tirer les verres du nez.
Oui, c'est ça.
Et pour arriver avec 14 juillet, cette bande dessinée.
Exactement.
Éditée chez. Oh, bien joué.
Merci.
Merci, Toufi.
Le réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et pour avoir une idée de cette bande dessinée 14 juillet de Bastien Vivès et Martin Kenéen, deux planches de cette bande dessinée sont disponibles à la page du Réveil Culturel. Merci, on se retrouve lundi. D'ici là, bon vendredi, bon week-end avec ou sans France Culture.